Et on retrouve Olivier Beauregard à l'instant pour parler sport. Olivier, bonjour.
Salut.
On commence avec une excellente nouvelle pour les Alouettes de Montréal.
Oui, une très, très bonne nouvelle qui est tombée un peu plus tôt cette semaine. C'est la présence de Geoffrey Quentin-Arcu, qui a été sélectionné par les Alouettes. Ben, lui, s'est présenté au camp contre toute attente cette semaine. Je pense que c'est un très bon coup des Alouettes de Montréal. Là, je vous explique un peu le portrait, mais le Québécois Geoffrey Quentin-Arcu a été sélectionné par les Alouettes de Montréal lors du tout récent repêchage de la Ligue canadienne de football. Il a été sélectionné au 9e rang. Écoute, ça a été une surprise un peu des Alouettes, pas parce que c'est pas un gars de talent, c'est surtout parce que c'est un gars qui avait déjà dit qu'il s'en allait dans la NFL. Il avait déjà reçu l'invitation des Dolphins de Miami. Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont décidé de lui donner une chance, mm-hmm. même si ce gars-là aurait pu facilement sortir dans le top 3. Les Alouettes, eux, ont décidé de miser sur lui au 9e rang. Et ça a porté fruit parce que, écoute, le camp d'entraînement des Dolphins de Miami, le mini-camp des recrues, vient tout juste de se terminer. Et on a annoncé justement le renvoi ou la redirection de Geoffrey. Et ça fait en sorte que lui, ben, il se rapporte immédiatement avec les Alouettes de Montréal. Et pas plus tard que mardi, le jour 2 du camp d'entraînement des Alouettes, il était là, il venait de signer son contrat. Alors, c'est une excellente nouvelle parce que c'est un gars non seulement qui est un Québécois, mais c'est un gars qui a une carrière jusqu'à présent exceptionnelle, là. Écoute, il a joué au niveau des États-Unis dans la NCAA. Il a connu vraiment une carrière jusqu'à présent incroyable avec Memphis. C'est un secondeur qui joue à la défensive, qui a connu, comme je vous dis, une saison tout à fait exceptionnelle avec les Tigers. On parle de 82 plaqués, 73 plaqués assistés. Je veux dire, c'est des statistiques vraiment reluisantes. Lui se rapporte au camp, il y a une entente et je pense que rapidement, ça va devenir une vedette avec les Alouettes de Montréal. Bref, s'il peut transmettre ce qu'il a réussi à faire aux États-Unis dans les collèges avec les Alouettes de Montréal, ça va devenir probablement un favori. Donc, je voulais juste le souligner parce que c'est vraiment un coup de maître de Danny Machocha mm-hmm. d'avoir décidé de le sélectionner malgré tout, alors qu'on pensait qu'il était engagé, alors qu'on pensait qu'il allait suivre sa carrière dans la NFL. Et bien là, les Alouettes de Montréal viennent d'aller chercher une étoile. Je veux pas mettre la charrue devant les bœufs, par exemple, Sébastien, parce que c'est arrivé souvent que des joueurs qui ont connu une brillante carrière aux États-Unis sont arrivés dans la NCF. Puis écoute, ça s'est relativement mal passé. Mm-hmm. Je pense à Michael Sam, rappelez-vous. Ce gars-là avait gagné le trophée Heisman au niveau collégial américain. C'est remis au meilleur athlète, si tu veux. Quant à ça, généralement, tu es un choix de première ronde dans la NFL, puis tu vas avoir une carrière très, très longue et tu vas faire beaucoup d'argent. Eh bien, Michael Sam, ça s'est pas avéré comme ça. Là, ce gars-là s'est amené avec les Alouettes, puis ça a été déception par-dessus déception. Il n'a jamais été capable de s'adapter au style de la Ligue canadienne de football. Puis tu sais, les Alouettes, quand on regarde leur fiche avec des joueurs, justement, qui étaient des têtes d'affiche dans la NFL, puis qui se sont amenés chez eux, c'est pas reluisant. Là. Il y a Johnny Manziel, Johnny Football, là, qui avait eu une carrière fantastique au niveau de la NCAA. Des déboires dans la NFL s'amènent avec les Alouettes à titre de corps arrière, puis ça n'a pas été concluant. Ben, bref, je pense que dans le cas de Quentin Arcu, là, ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, on va suivre le camp d'entraînement des Alouettes, non seulement sont champions en titre, mais également, je pense qu'ils vont avoir une belle équipe sur le terrain cette année.
Sinon, ben, la toute première saison de l'équipe montréalaise de la LPHF, ben, c'est terminé. C'est voilà, ils sont inclinés devant l'équipe de Boston.
Ouais, mardi, une défaite crève-cœur à Boston en demi-finale. Écoute, c'est pas compliqué, là, les Montréalais se sont battus du début à la fin mm-hmm. dans ces séries-là, parce que les trois matchs, parce que rappelez-vous, dans la LPHF, le format des séries, c'est des 3-5. Alors, les trois matchs se sont conclus en surtemps, en prolongation. Puis ça a été trois défaites, malheureusement, de l'équipe de Montréal. Mais c'est intéressant, par exemple, comment on a fait ça. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, les séries de la LPHF. J'ai suivi ça et je vais continuer à les suivre. Là. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que non seulement c'est des 3-5, donc tu dois gagner plus rapidement, mm-hmm. mais c'est également très intense. Là. Ceux qui ont suivi les séries éliminatoires, vous allez être d'accord avec moi que ça a été très, très, très intense. Et ce sont des équipes, en raison du fait qu'il n'y a tellement pas d'équipes dans cette ligue-là, ce sont des équipes qui sont très similaires, beaucoup de parité entre les clubs. Alors, même si Montréal avait terminé au sommet du classement, tu t'affrontes une équipe comme Boston qui, oui, a connu une belle saison, mais tu t'attendais peut-être à une domination. Puis finalement, mm-hmm. au final, ils ont été complètement surpris, je crois, par l'équipe de Boston, surtout par la gardienne. et ça a fait en sorte que malheureusement, ben, ils ont été balayés, mais ça donne une belle parité, puis je trouve ça intéressant. Tu sais, Toronto joue contre le Minnesota à l'heure actuelle, tout le monde disait que Toronto allait l'emporter facilement, ben Minnesota a arraché une victoire, alors ça fait des séries excitantes. Je pense que la gestion de l'alignement, c'est ça qui a beaucoup, beaucoup fait jaser au courant des derniers jours, du côté de la formation montréalaise, entre autres. Là. Écoute, ça, tu vois pas ça souvent, des joueuses qui vont jouer dans des périodes de prolongation et qu'à la fin du match, ils ont joué plus de 60 minutes. Là, c'est énorme. Là, tu vois pas ça dans la Ligue nationale. Ça n'a pas de sens. Je pense que ça va être à retravailler du côté des dirigeants parce que tu sais, Sébastien, tu amènes une équipe complète à quatre lignes avec six défenseurs et tu décides d'en jouer deux, d'en jouer trois. C'est pas beaucoup, puis ça fait en sorte que c'est surtaxé. Puis au final, quand tu joues du hockey intense comme en série, puis on l'a vu dans la LPHF, là, c'était du jeu robuste, du jeu physique, à un moment donné, ben ça se peut que tu sois essoufflé. Là. Et c'est un peu ça qu'on a senti de l'équipe de Montréal. Même si eux disent que non, moi, j'ai vu Marie-Philippe Poulin en entrevue après qu'elle ait joué 60 minutes dans un match ou pas loin de 60 minutes, puis je me dis, écoute, cette fille-là est exténuée. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut continuer comme ça en séries éliminatoires? Non. Donc, la gestion des effectifs va devoir peut-être à retravailler. Mais ils ne sont pas les seuls. Tu regardes Boston, je pense que leur défenseur numéro 1 a été utilisé aussi 60 minutes lors des deux premiers matchs. Écoute, c'est énorme. Là. Les joueurs de la Ligue nationale ne font pas ça. Alors, je pense qu'il va vraiment falloir trouver une façon de peut-être améliorer ça parce que tu peux pas juste avoir des passagers sur le banc. En série éliminatoire, tu as besoin de l'implication de tout le monde. Puis je pense que c'est la seule chose qui a fait défaut jusqu'à présent pour Montréal. Mais tu sais, c'est une belle façon de terminer ça, c'est-à-dire une participation en série éliminatoire, une première participation en série, une place belle remplie à craquer en série éliminatoire. La LPHF a fait un beau boulot cette année. Je pense qu'il y a des affaires à travailler, surtout à l'aspect marketing. Là. Puis c'est pas une chronique marketing, je le comprends. Mais tu sais, dans ce qui nous touche au niveau du sport, je pense que l'an prochain, il faut que les équipes aient des noms. Je pense qu'il faut que la Ligue pense à une expansion rapidement parce que 6 clubs, c'est très maigre. Ça ne crée pas nécessairement autant de rivalité qu'on l'aimerait. Tu sais, il y a une proximité nette entre Montréal et Ottawa. J'espère que ça, on va pouvoir vivre justement là, peut-être un calendrier plus condensé entre Ottawa et Montréal qui va faire en sorte que ben il y a une petite rivalité naturelle qui va se bâtir. Mais c'est une Ligue qui est en développement. C'est une Ligue qui va devoir continuer justement à essayer de créer une expansion, puis on verra ce que ça va donner. Je rêve du jour, Sébastien, où on va annoncer une équipe à Québec. Moi, je pense que Québec mérite d'avoir une équipe de la LPHF. Ça pourrait être très intéressant pour le marché. Alors, à suivre, mais comme premier bilan, là, même si c'est pas terminé, là, comme premier bilan, autant pour l'équipe de Montréal que l'équipe d'Ottawa, ça a été un succès. Mm-hmm. Je pense que pour tous les marchés, c'est pas le cas. Là. Tu regardes à New York, ça a été très difficile au niveau de l'assistance, mais c'est des gros marchés, là. Je veux dire, tu sais, t'as les Islanders, t'as les Rangers, puis à l'automne, ben, t'as les Giants, t'as les Jets dans la NFL, t'as du basketball, t'as les Mets, t'as les Yankees au niveau du baseball.
Oh oui, tout est là.
C'est ça, c'est qu'à un moment donné, ton argent à loisir, là, ben, t'as beaucoup, beaucoup d'options. Mais je pense que c'est des terrains à développer et qu'il faut continuer à travailler de cette façon.
Sinon, ben, différents sujets en rafale là, concernant la Ligue nationale de hockey, ben, les séries là, qui se poursuivent d'abord.
Ouais. Oui, ben c'est ça, ça vient juste de tomber. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça au courant de la journée, mais Brad Marchand, aujourd'hui, a parlé en marge du match 6 de la série Bruins-Panthers qui va avoir lieu demain. Marchand est à l'écart du jeu pour un coup sournois là, de Sam Bennett. Je ne sais pas si les gens font référence, mais en fait, Brad Marchand a reçu une mise en échec de Sam Bennett, mais ce qui a retenu l'attention, c'est surtout le coup de poing qui est parti de Sam Bennett pendant cette mise en échec-là, qui a été très sournois. Là. C'est à peine visible. Là. Il y a une angle de caméra qui nous a permis de voir le geste. Et ce coup de poing-là a mis Brad Marchand à l'écart. Évidemment, on est en série, Sébastien, on ne dévoile pas la blessure exacte, mais on peut s'attendre à une commotion cérébrale dans son cas. Là. Ça ressemble beaucoup à ça. Il suit le protocole, il espère être de retour pour le match 6, mais ce qui a retenu l'attention, c'est ses propos. En conférence de presse aujourd'hui, il a dit, écoutez, c'est ça les séries. Sam Bennett est rentré sur la glace, puis son objectif, c'était de me blesser. Puis du moins, quand j'embarque sur la glace, mon objectif, c'est de le blesser, parce qu'au final, quand tu blesses un élément de l'autre côté, tu pars avec un avantage. Chaque présence, il y a quelqu'un qui veut blesser quelqu'un.
Je suis pas sûr
que la Ligue nationale de hockey est ouverte à des propos comme ça. Mais si on enlève notre tête du sable là, un petit peu, c'est quand même la réalité. Brad Marchand a osé le dire aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de frustration entourant les Bruins de Boston pour la blessure à Marchand parce que Sam Bennett, au final, si les partisans ont pu voir cette révision-là de la mise en échec puis de voir l'angle de caméra où on voyait le coup de poing et que la Ligue nationale a décidé de pas sévir, ben là, ça se peut qu'il y ait des représailles. Bref, on va voir, on va suivre. Il y a eu un match depuis, de toute façon, Brad Marchand n'a pas joué depuis le match 3. Mais ça reste que ça l'ouvre la porte à d'autres coups comme ça. Et les propos de Brad Marchand aujourd'hui n'aident pas nécessairement la vision du hockey. C'est-à-dire que ça n'aide pas nécessairement l'image qu'on peut rejeter. Mais si on est un peu honnête, c'est quand même le cas. Quand les joueurs embarquent sur la glace, en série éliminatoire, c'est la guerre. Puis ce qui compte, c'est qui va sortir avec le 2 points. Ben, pas le 2 points, mais la victoire. Bref, c'était des propos de Brad Marchand qui... disons, vont faire réagir au courant des prochains jours.
Mais on repassera pour l'esprit sportif, par contre.
Ah, 100%. Écoute, mais tu vois, ça, c'est pas dans ses, c'est pas dans ses bonnes grâces à Brad Marchand, l'esprit
sportif. Sinon, ben, la danse des entraîneurs dans la Ligue nationale, ça se poursuit?
Oui, j'en ai parlé la semaine dernière sur nos ondes. Tu sais, je vous disais que je m'attendais à voir Sheldon Keefe probablement retentir rapidement sur ses pieds, rebondir plutôt sur ses pieds, et probablement dans une équipe comme le New Jersey, parce qu'il a été congédié des Leafs de Toronto, sans surprise. Mais c'est pas le seul là, qui est présentement dans des pourparlers avec des équipes. Du côté des Maple Leafs, justement, là, lors du bilan de saison, le directeur général Brad Treveling a dit: nous, là, on va dénicher un nouvel entraîneur-chef rapidement. On va pas attendre, on va pas ralentir le processus. On veut absolument avoir un entraîneur-chef rapidement. Et là, ben, ce qu'on comprend, c'est Craig Berube, celui qui a remporté la Coupe cette année avec les Blues de Saint-Louis, là, je pense que c'est en 2018, là, je veux pas me tromper. Ben, lui a été congédié justement par ces mêmes Blues avant les fêtes. C'est un entraîneur qui est convoité. On dit qu'il serait numéro un en termes de candidature pour les Leafs de Toronto, mais il serait pas le seul, là. C'est-à-dire que les Devils discuteraient avec lui également. Il y a des places de disponibles. Il y a beaucoup de spéculations. Est-ce que Greg Berube peut justement être le candidat idéal pour les Leafs? Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un candidat de choix parce que c'est un gars qui a de l'expérience, parce que c'est un gars qui est dur. Puis je pense que c'est ça que les Leafs ont besoin. Ça serait un bon coup des Maple Leafs de Toronto d'aller chercher un gars comme Craig Berube. Mais tu sais, je me contredis un petit peu, Sébastien, puis je l'ai dit souvent, moi, le recyclage d'entraîneur, des fois, je trouve ça difficile, je trouve ça redondant. Sauf que là, dans un marché comme Toronto, où c'est un marché important de la Ligue nationale de hockey, qui a beaucoup d'histoires, qui a beaucoup d'attentes également, ben je pense que ça te prend un gars qui a un peu l'étoffe d'un entraîneur-chef renommé. Et c'est un gars qui a une bague de la Coupe Stanley, c'est un gars qui a joué dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je pense que ça va pouvoir faire un grand bien à Austin Matthews, entre autres. C'est pas lui qui a le pas jusqu'à présent, là, mais soyons honnêtes, on dit qu'ils ont eu des discussions entre les deux clans samedi et dimanche. Moi, je pense que c'est une question de temps avant que les Maple Leafs annoncent que Craig Berube sera leur prochain entraîneur-chef.
Bon, ben, on s'en reparlera la semaine prochaine. Olivier Beauregard, un grand merci pour ton temps, tes explications et tes lumières sur ces différents sujets sportifs. Puis à la semaine prochaine.
Un grand plaisir. Merci beaucoup.